Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Dominique Prudent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, écrivain, prof de sport. On va parler un petit peu de vous. Vous venez de sortir un livre, Histoire du football féminin en Suisse. C'est pas une histoire qu'on raconte sur un coin de bar, comme nous nous trouvons dans un coin de bar aujourd'hui sur une terrasse. Mais c'est une recherche fouillée, historique, sur l'histoire du foot féminin. Évidemment, le timing est parfait. Hein. Il y a l'Euro cet été en Suisse.
Oui, le timing est réfléchi, tout est calculé.
Tout est calculé.
Y compris le choix du sujet. Je recherchais, après mon premier livre que j'ai publié l'année passée, je cherchais un nouveau sujet, un nouveau projet. Et j'ai vu qu'il y avait cet événement, Euro 2025, qui va se dérouler en Suisse. Euro féminin donc, du 2 au 27 juillet, dans 8 villes de Suisse. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait faire... c'était une bonne idée de sujet d'écriture. Et je voulais aussi explorer un sujet qui avait été peu étudié dans le monde académique, le monde universitaire. Il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont été réalisés là sur le foot féminin, encore moins au niveau suisse. Donc je me suis dit, en juillet l'année passée, allez, c'est parti.
Ah, vous avez bien bossé, alors ça date de juillet l'année passée, ça a été vite.
Oui, ça a été vite. Je m'étais donné à peu près une année pour l'écrire. Je voulais le finir à cette période, fin mai, début juin. Et puis... la maison d'édition le voulait que je termine pour Noël. Oh. Donc,
ils sont durs. Vraiment, ils connaissent le marketing, hein, c'est ça.
Oui, voilà.
Il fallait pouvoir éditer tout ça avant l'Euro, c'est chose faite. On va parler évidemment de cette histoire-là. Hein, vous la racontez de façon très lisible, mais quand même avec un appareil critique à la fin, les notes, les références, etc. Donc, il y a là un vrai travail de recherche, d'historien. Les sources, elles sont nombreuses.
Oui, alors les sources, elles sont nombreuses, elles sont de plusieurs genres. Ce que j'ai beaucoup utilisé, surtout pour la partie historique, c'est les archives. Je me suis rendu dans des bibliothèques cantonales ou universitaires, principalement la BNS, Bibliothèque Nationale Suisse à Berne. Et puis je vais consulter des anciens journaux au tournant du 19e. J'en ai consulté plein parce que c'est là que le phénomène du football féminin apparaissait. Mmh. Et du coup je me rendais là-bas puis je tournais ces pages. Des fois en une journée je tournais des pages et je trouvais rien, et des fois je trouvais 2-3 éléments, parce qu'il fallait bien que je définisse quand le football féminin en Suisse avait débuté. J'avais un peu un créneau aux alentours des années 1920, mais il fallait que je m'assure que rien n'avait, qu'il n'y avait pas eu de match avant ou d'équipe qui avait été créée avant. Donc du coup j'ai consulté la presse sportive suisse à partir de 1880 à peu près.
Ouais, et puis alors on va revenir hein, sur l'histoire, il y a plusieurs étapes, mais c'est ça, il y a des équipes proprement féminines qui se forment au début du XXe siècle.
Oui, alors on voit la première équipe qui a été, que les chercheurs ont pu mettre en avant, c'était le FC Listal, donc dans le chef-lieu de Bâle-Campagne. On a une photo qui date de 1912, où on voit 7-8 footballeuses, avec un espèce de béret, avec des jupes, avec les habits de l'époque. Et puis avant ça, on n'a rien trouvé. On sait que des fois, dans certaines écoles de filles, donc l'école ordinaire, l'école normale, ça discutait de mettre le football au programme scolaire. Et puis, donc on sait qu'elles jouaient déjà, mais ça, c'était pas des matchs ou des clubs féminins.
Alors, votre livre, on va y entrer bien sûr, mais le foot, c'est un peu votre passion. Vous êtes sportif, hein, vous avez fait d'ailleurs des études pour arriver à ce travail de maître d'éducation physique et de sport. Le foot a une place particulière dans votre évolution ou pas?
Oui, j'ai un peu grandi autour du ballon. Quand j'étais petit, j'habitais dans un quartier... dans un quartier avec des blocs où j'avais plein de copains, puis on faisait que de jouer au foot.
Et pas de copines?
Oui, il y avait aussi des,
qui jouaient, hein,
des copines, des filles qui jouaient avec nous.
Ouais.
Serenella et Lisa, si vous m'entendez. Et puis du coup, on jouait beaucoup dehors. J'ai commencé le foot assez rapidement à Corcelles près Payerne, le petit village à côté de chez moi. J'habitais à Payerne. Et puis je suivais le foot à la télé. Puis actuellement, Je fais toujours du foot. Mmh. J'ai entraînement ce soir et match après-demain.
Bon, on va être raisonnable. Alors, buvez de l'eau minérale, c'est très bien. avant l'entraînement. Bon, il y a une personnalité incroyable que moi j'ai découvert. C'est bien la preuve que votre livre est utile. C'est Madeleine Boll qui signe la préface de votre livre. Première femme licenciée en Suisse, en tout cas, dans le monde, d'après ce que j'ai compris. Incroyable.
Oui, elle vient de Sion. Elle vient de Sion en plus. Donc, c'est pas loin d'ici. C'est une femme du cru qui approche la septantaine d'années. Elle a eu son anecdote ou cet épisode de vie en 1965. Ça a beaucoup fait parler parce qu'elle est effectivement considérée comme la première footballeuse de Suisse. Je vais m'expliquer. C'est parce que en 65, elle a commencé le foot à Sion. Et puis, c'était à Sion ou à Grange, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était à Grange, de son village où elle vivait. Et puis, son club a envoyé une dizaine de demandes de licence à l'ASF pour qu'après, elle puisse jouer les matchs. Et puis, l'ASF a accepté sa demande. Elle est sans doute passée au travers. Ils ont regardé ça de manière trop brève. Et puis, c'est passé au travers. Et du coup, elle a pu jouer 1-2 mois. Jusqu'à ce qu'elle joue avant un match important qui était Sion contre Galatasaray. C'était la Coupe des vainqueurs de Coupe.
C'est la première fois que Sion gagnait la Coupe. Hein.
Oui,
c'est
exactement.
Après, donc, ils étaient dans le circuit européen.
Ouais. Ouais, cette compétition, c'était ceux qui gagnaient la Coupe. Le vainqueur de la Coupe Suisse, par exemple, il affrontait le vainqueur de la Coupe de Turquie, en l'occurrence, ou le vainqueur de la Coupe de France ou d'Angleterre. Du coup, Sion avait gagné, s'était qualifié pour ce match de vainqueur de coupe contre Galatasaray. Et avant ce match, il y avait un match entre les juniors C de Sion. Et vu qu'il y avait la presse, il y avait des supporters, du coup, ils ont vu qu'il y avait une fille qui jouait, puis ils ont relaté ça dans
leurs articles.
Dans leurs articles,
c'est ça
dans les
qui est
médias.
Dingue, hein, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a un conservatisme de base des associations de foot. Alors vous dites qu'ils n'ont peut-être pas vu passer. Moi, j'ai plutôt interprété ça comme ils n'ont pas vu le problème. Et puis, c'est à partir du moment où ça sort dans la presse, pas forcément négativement d'ailleurs, mais que ça fait ce qu'on appelle aujourd'hui, mais pas à l'époque, un buzz, que l'association suisse de foot se rétracte et craint finalement son geste, quoi.
Oui, bah l'association, l'ASF, ça fait un petit moment qu'ils s'opposent un peu à ce phénomène de football féminin, comme les instances sportives en général depuis plusieurs décennies. En Pierre de Coubertin, par exemple, s'est toujours opposé à la participation des femmes aux Jeux Olympiques. Il disait qu'elles pouvaient participer aux Jeux Olympiques, mais seulement pour récompenser les médaillés. Il fallait que ça en reste là. Et là, du coup, ça a fait la une des médias, y compris des médias internationaux, le fait qu'une femme joue au foot, elle avait 12 ans.
Oui, c'était dingue, hein. Elle avait 12 ans, elle s'est rendue compte, après coup j'imagine, mais enfin sa famille, qu'il y avait des articles en Amérique du Sud, en France, en Angleterre, c'était un truc de dingue.
Ouais, exactement. Et du coup la SF lui ont retiré sa licence aussitôt, donc ouais. Elle a pu plus jouer au foot. Elle est venue sur Lausanne jouer dans une équipe d'écoliers, donc de manière inofficielle. Et puis aux alentours des années 70, elle s'est déplacée en Italie. Il y a un avocat italien qui lui a téléphoné, un homme d'affaires italien qui lui a téléphoné, puis elle allait jouer 5 ans en Italie, où c'était une fabrique de meubles à Milan qui recrutait les meilleures footballeuses qu'ils connaissaient, puis ils allaient jouer pour eux.
Alors, on fait partie des pionnières, hein, y en a d'autres. Dans votre livre, on apprend plein de choses justement sur ces premières femmes, non seulement qui ont joué, mais qui ont lutté pour pouvoir jouer, hein, parce que c'est là tout l'enjeu. On va remonter un petit peu en arrière sur les débuts. Vous disiez que vous aviez consulté les archives et la presse depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. Dans tous les sports, hein, ça s'est passé, cette affaire de est-ce que les femmes peuvent pas, etc. Et moi, j'ai une lecture alors très extérieure et très liée à l'histoire et non pas au sport de cette affaire-là. Mais quand j'ai pensé au sport féminin dès le début du XXe siècle, j'ai pensé tennis, j'ai pensé ski, j'ai pensé golf, j'ai pensé équitation. Donc j'ai pensé des sports extrêmement bourgeois d'abord. Et individuels, pas des sports collectifs. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le patriarcat de l'époque autorisait, ne voyait pas d'un mauvais œil la participation des femmes à certains sports, mais les sports collectifs...
Quand il y a de la mêlée, ça devient... On touche aux mœurs, quoi. On touche au sexe, en fait, pour être clair.
Les sports de contact, par exemple, étaient jugés virils et ça devait rester une affaire d'homme.
Mmh. Et donc, le, parce qu'on se rend compte qu'il faut attendre les années 60-70 pour que les instances nationales, vous parlez vous de la Suisse, mais internationales aussi, prennent en compte cette, cet aspect féminin, alors qu'il y a d'autres sports qui ont des, ben voilà, des entrées des femmes beaucoup plus rapidement. Hein.
Oui, certains sports, ça s'est fait de manière plus précoce.
Ouais, et naturelle.
Ouais, la gym,
il y a aussi un aspect
ski.
Social, je veux dire, il y a aussi un truc que les sports faits par les grands bourgeois, j'ai parlé du tennis, du golf, l'équitation, etc., les femmes de ce milieu social-là avaient plus de pouvoir peut-être pour imposer que leur loisir devienne aussi une compétition. Quoi.
Ouais, voilà, parce qu'il fallait avoir le temps aussi de faire du sport, et c'est pour ça que c'était les milieux les plus aisés qui pouvaient se permettre d'aller faire du sport. Les femmes issues de la classe ouvrière, après elles devaient rentrer chez elles et s'occuper du foyer. Les arguments qui vont contre le sport féminin, c'est un peu les mêmes qui vont contre le droit de vote pour les femmes.
Ah oui, les milieux politiques, vous les avez analysés. Donc
ouais, il fallait que la femme reste au foyer et ne soit pas...
Soit protégée moralement, physiquement, etc.
Voilà, il fallait que la place publique était réservée à l'homme.
Vous connaissez le korfball ?
Le korfball, eh ben, j'ai connu ce sport... En lisant justement les archives, c'est un sport qui est plus trop pratiqué, en tout cas pas en Suisse. Puis oui, c'est une sorte de balle à la corbeille. Ou...
Voilà, c'est une sorte de basket, mais qui était révolutionnaire, hein, créé tout début du XXe siècle, 1902. J'ai vu ça grâce à vous, hein, j'ai fait mes petites recherches aussi. Je ne le connaissais pas. Créé aux Pays-Bas et en équipe mixte. Il y avait 4 hommes, 4 femmes par équipe. Révolutionnaire, hein, ça, et puis ça a pas pris d'une part. Et puis il n'y a pas beaucoup d'autres sports qui se pratiquent de façon mixte.
Non. Effectivement, il y a peu de sports qui se pratiquent de façon mixte.
Bon, alors, ça, c'est pour le temps des pionnières. On est dans des milieux bourgeois, on essaye d'imposer la pratique du sport, etc. On arrive à Madeleine Boll, dont on a parlé tout à l'heure. On est toujours dans le temps des pionnières. Et là, on a ce qui commence à être l'organisation d'un football féminin en Suisse. C'est un peu parallèle dans les autres pays ou pas ?
Ouais, ça a
c'est
quelques
un peu les mêmes
années
près,
ça émerge donc, également dans les autres pays.
Très bien, donc on va rester sur la Suisse. Et puis là, alors, on entre dans une phase de traversée du désert, en somme. Hein. Ça se construit petit à petit, il y a des clubs, les instances lâchent un petit peu de l'Est, mais pas trop. Et ça dure longtemps. Hein.
Ouais, ça dure longtemps. Et puis, ouais, c'est assez intéressant, ça, parce que donc, au début, on ne voulait pas que le foot féminin existe et les associations nationales, par exemple la SF ou la FFF en France ou la FA en Angleterre, elles s'opposaient au phénomène. Pour finir, elles ont accepté d'organiser un championnat. En Suisse, le premier championnat suisse, c'était lors de la saison 1970-1971, remporté par Arrow, comme les 4 premières éditions ont été remportées par Arrow. Donc la SF était OK d'organiser un championnat. Et puis d'accepter le phénomène du football féminin, mais c'était, on s'en réjouissait, mais c'était principalement pour contenir le phénomène et pour le surveiller, pour pas qu'il s'émancipe seul et puis que des compétitions viennent s'organiser, des compétitions qui ne seraient pas sous l'égide des fédérations nationales.
De l'instance et de la fédération. On va rester là-dessus, sur ce premier championnat des années 70, et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion. Évasion, plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Dominique Prudent, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On parle du foot féminin en Suisse, de ce livre, hein, Histoire du foot féminin. Vous venez de le publier, vous l'avez là. Magnifique photo de couverture d'ailleurs. Hein, c'est qui ces trois filles ?
Alors, celle qu'on voit vraiment de face, c'est Ramona Barman, la deuxième Suissesse la plus. Qui a eu la plus capée en équipe de Suisse, à peu près 160 sélections. Elle joue toujours, on la verra peut-être cet
pendant
été.
L'Euro.
Sinon, à côté, il y en a une deuxième qui est la plus connue, c'est Alisha Lehmann, qui est principalement connue pour son rôle d'influenceuse plutôt que son activité de footballeuse. Elle joue à la Juventus de Turin. Elle vient d'être appelée en équipe de Suisse. Et la troisième, c'est Lara Dickenmann, c'est celle qui est considérée comme la plus grande footballeuse suisse de l'histoire. Elle a remporté plusieurs
sourires,
Ligues des Champions.
Des sourires radieux qui indiquent qu'un goal a été marqué, hein, très probablement, si on veut faire l'histoire de cette photographie. Histoire du football féminin en Suisse, c'est aux éditions Livréo Alphil, édition neuchâteloise, et puis collection Les Routes de l'Histoire. On en était resté en fin de première partie à cette affaire de premier championnat. On est dans les années 70, et puis, bah voilà, moi je suis né en 1970, vous voyez, donc. je peux dire, même si le foot m'intéresse moyennement, que bah, j'entends parler du foot féminin depuis 10-15 ans maximum, et puis on en entend vraiment parler depuis quelques années, depuis la participation de l'équipe féminine de Suisse à des compétitions internationales, et évidemment avec la, l'arrivée de l'Euro. On a 30 ans en tout cas de désert. Les matchs existent, les médias ne les relayent pas, c'est vraiment la traversée du désert avant même d'avoir pu commencer à exister, quoi.
Ouais, exactement. D'ailleurs, un sous-chapitre du livre, ça s'appelle « La longue traversée du désert ». Donc, c'est écrit en 1970, mais jusque dans les années 2000, on en parlait très peu. On en a parlé un petit peu au début des années 1970, parce que c'est un phénomène nouveau. Donc, les médias ont un peu relayé l'information. Pas de la meilleure manière possible. Bon, c'est les commentaires journalistiques s'attardaient plus sur la tenue ou le physique des joueuses que sur le... sur la,
nous voici
le...
avec un classique patriarcal, voilà, malheureusement.
Oui, voilà. Ouais. Et puis après, donc on n'en a plus entendu parler pendant longtemps. C'était pas ni dans les journaux, ni à la radio, ni à la télé. Et puis après, la SF a commencé à prendre en main le fait que, ça soit, que ce sport soit presque anonyme de manière médiatique.
Il y a même une période, hein, j'ai vu ça, où pour avoir un club, enfin pour qu'un club féminin existe, il fallait qu'il soit affilié à un club masculin. On ne pouvait pas avoir un club féminin indépendant, en somme.
Ouais, exactement. Au tout début, on pouvait par exemple créer le FC Vevey et puis c'était seulement un club féminin, mais une, deux années plus tard, la SF a obligé les équipes féminines à être affiliées à des clubs masculins. Ce qui a...
Sinon, pas d'accès aux infrastructures, c'est complètement dingue. Hein.
Ouais, voilà, ouais. Pas d'accès. Et du coup, ça fait mourir plusieurs clubs parce que si par exemple, il y a un petit bled qui a une équipe féminine et puis que le club n'a plus le droit d'exister et puis qu'ils doivent se déplacer à... qu'ils doivent faire 20 ou 30 minutes de trajet pour rejoindre la ville la plus proche.
Le club s'éteint de lui-même. Et voilà.
Ouais. Surtout que dans les années 70, le permis de conduire était moins bien répandu chez les femmes, quoi, ouais, qu'actuellement.
Bon, alors on est dans cette traversée du désert. Je parlais du rôle des médias. Hein. Moi, j'ai souvent entendu mes confrères journalistes alors là, je vous parle de ces 20 dernières années, hein, se désoler du fait qu'on ne parlait pas assez du foot féminin, mais se justifier en même temps en disant « Bon, bah oui, bah, nous, on ne diffuse pas les matchs parce que les gens ne les regarderaient pas. » Et on est dans cette espèce de serpent qui se mord la queue. On ne diffuse pas parce que les gens ne les regardent pas et puis les gens ne les regardent pas parce qu'on ne diffuse pas, quoi. Hein. C'est un peu ça.
Oui, c'est un véritable cercle vicieux. Ouais. Et depuis quelques années, les matchs sont diffusés, surtout les matchs de l'équipe nationale suisse, qui s'est qualifiée pour sa première Coupe du Monde en 2015 au Canada. Et du coup, ça offre un peu de visibilité à la pratique féminine. Et ça, c'est quelque chose qui est super important, c'est qu'on puisse les voir et puis qu'elle puisse, la petite fille qui regarde ses aînés jouer au foot, elle puisse se reconnaître là-dedans et puisse dire « Ah ben, je peux... » Je pourrais aussi commencer la pratique sans se considérer
ouais,
elle-même.
La vertu des exemples, hein, évidemment.
Oui, la vertu des exemples, ouais. Ouais.
Et donc, il y a un boom, j'imagine, actuellement. Il y en aura encore un plus fort après l'euro, a priori. Mais depuis quelques années, le nombre de licences en Suisse augmente de façon incroyable.
Ouais, donc là, oui, on assiste effectivement à un boom, à une croissance très réjouissante. À la fin de l'année 2024, on approchait les 45 000 licenciés en Suisse, ce qui équivaut à 12%. Il y a plus de 300 000 hommes
donc 12%
qui font
du nombre de licenciés sont des femmes, c'est ça?
Voilà, exactement. Ouais. Et puis, donc là, il y a eu une... Ça a fait presque x2 en une dizaine d'années, le nombre total de joueuses, de footballeuses suisses. Et la SF s'est fixée à l'horizon 2027 d'arriver à 80 000 licenciées femmes. Et pour ça, elle compte effectivement sur l'euro féminin. Il y a une véritable stratégie qui a été mise pour développer le football féminin.
Au sein de la SF, au sein des clubs aussi. Hein, vous dites, vous avez fait un peu le tour des clubs et il y en a presque 60%, je crois, c'est 59% qui disent que leur priorité aujourd'hui, c'est de développer le club, la partie féminine du club.
Oui, alors ça, c'est super intéressant parce qu'ils interrogent les clubs et ils leur demandent quelles sont leurs priorités. Puis le critère qui ressort à la première place, c'est développer le foot féminin. Donc dans les clubs, ça apparaît aussi qu'ils désirent...
Ça peut être un peu de féminisme washing ou c'est sincère, à votre avis?
Ouais, pour moi, ça s'apparente à ça, féminisme washing, parce qu'on leur a tellement mis longtemps des bâtons dans les roues que maintenant, on essaye un peu de compenser. Puis il y a peut-être des informations qui ont été reçues d'au-dessus. par exemple de l'ASF ou des associations cantonales qui elles aussi font des gros efforts pour développer le foot féminin. Elles font des ces associations comme la CVF sur Vaud.
Il y a un projet Honeyball que vous décrivez. Expliquez-nous un peu ça. Donc un projet cantonal de l'association cantonale vaudoise de foot qui vise à encourager le foot féminin.
Ouais, voilà. Honeyball, c'était une des premières joueuses britanniques. Puis du coup, elles reprennent ce nom pour faire une campagne promotionnelle autour du football féminin pour inciter les jeunes filles à commencer le foot. Mmh. Parce que c'est important que les filles commencent petites à jouer au foot.
Alors, vous avez des conclusions. Hein. D'abord, vous faites quand même un constat réjouissant sur ce long développement, cette longue traversée du désert. Et puis, on va dire depuis le début du 21e siècle, lentement mais sûrement, le développement du foot en Suisse et ailleurs dans le monde. Mais vous pointez quand même un manque d'infrastructures. Vous dites qu'il y a beaucoup de joueurs, / de joueuses, qui ne peuvent pas jouer, quoi.
Ouais. On estime à environ 10 000 en Suisse le nombre de garçons ou filles qui ne peuvent pas débuter
enfants,
le foot.
Enfants,
parce qu'il manque de terrain, tout simplement, ou de vestiaire. Donc ça, c'est un problème qui a relevé dans cette sphère du foot. C'est qu'on veut doubler les effectifs du foot féminin, par exemple, mais on manque de terrain. Et puis, bien souvent, c'est les équipes de filles qui payent ça.
Voilà, bon ça, elles passeront en deuxième sur les horaires d'entraînement, sur les calendriers de match, etc. On n'est pas surpris, quoi.
Ouais, c'est exactement ça.
Je réfléchissais en venant vous voir, on parlait du tennis, hein, j'ai vu que le premier tournoi de Wimbledon féminin, c'est 1884, hein, c'est quelques années après la création du tournoi. On est un siècle et demi plus tard et on a toujours la finale dame qui est le samedi et la finale homme qui est le dimanche, on a toujours des prix qui ne sont pas les mêmes, donc voilà, le chemin est très très long, quoi.
Ouais, le chemin est long et le combat continue.
Vous êtes militant dans ce combat ? Votre livre
pas
est un geste que militant.
Ça, ouais. Pas de manière personnelle, mais oui, en écrivant le livre, ça permet à la cause du football féminin de prendre un peu de lumière.
Je reviens à vos conclusions, manque d'infrastructures, je l'ai dit. Vous dites nécessité de professionnalisation. La professionnalisation du foot masculin, vu de mon point de vue extérieur, elle amène à des dérives un peu terribles, quoi. Hein, l'argent fou, alors là on est dans des très hautes sphères du foot, mais est-ce qu'il faut vraiment une professionnalisation pour le développement ?
Alors oui, il faut une professionnalisation, mais pas incarné par les dérives actuelles du football masculin. On voit des joueurs qui vont jouer en Arabie Saoudite, par exemple. Mais ce qui est important dans la professionnalisation, c'est qu'en fait, elle n'ait pas besoin d'aller, par exemple, travailler la journée et puis se rendre à l'entraînement le soir.
Il y a des professionnels en Suisse ?
Oui, il y en a quelques-unes. Il y a une étude qui a été sortie au mois de janvier de cette année, 2025. On estime à une vingtaine de professionnels en Suisse. Mais elles gagnent... Elle gagne pas énorme, elle gagne les joueuses les mieux payées en Suisse, ça touche peut-être 5 000. En tout cas, c'est moins de 10 000 francs. Mmh.
Bon, par mois, hein, pour vivre. Et puis, comme vous dites, c'est quelques-unes qui vont
c'est
être.
C'est quelques-unes, ouais. Certaines.
Et il y en a, vous avez évoqué, y compris la pionnière Madeleine Boll qui allait jouer en Italie, mais c'était vraiment une autre époque. Mais là, il y en a quelques-unes qui sont internationales aussi, qui jouent dans des clubs européens ou ailleurs.
Oui, en fait, pour développer le niveau de l'équipe de Suisse, la Nati, les meilleures joueuses, elles s'expatrient. Et puis, elles vont dans des clubs professionnels à l'étranger, et puis du coup, elles s'améliorent, elles progressent beaucoup. Lors de la dernière Coupe du Monde en Océanie, là, c'était Australie-Nouvelle-Zélande, il y avait 10 des 11 titulaires qui jouaient à l'étranger.
Mmh. Aujourd'hui, il y a cette Euro qui va avoir lieu cet été en Suisse, qui va être, je crois, j'ai pas le détail, mais qui va être extrêmement bien diffusée par la chaîne nationale, par la RTS. Là, il y a un pas important. À votre avis, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tremblent en disant personne ne va regarder, ou au contraire, ils ont compris qu'il y avait une sorte d'étincelle et puis que ça allait être un événement populaire ? Parce qu'on joue gros, là. La RTS, c'est leur affaire, mais le monde du foot suisse joue gros avec cette histoire.
Oui, la RTS va publier tous les matchs, va retransmettre tous les matchs en direct sur sa chaîne, ce qui est une formidable opportunité pour médiatiser l'événement et puis pour offrir de la visibilité au sport.
Puis vous savez si les autres pays achètent ou pas ?
Pour la dernière Coupe du Monde, les droits TV étaient trop élevés Et du coup, les chaînes ne voulaient pas acheter, les droits, quoi, et diffuser. Donc, ils ont dû baisser. Là, je sais pas pour l'euro, je sais pas combien ils les ont mis, mais je suppose qu'ils vont pas faire la même erreur.
On va terminer sur le point le plus important, en fait, qui est le sport amateur, le sport comme on l'a vu, hein, émancipation politique. C'est intéressant, le rôle du sport dans l'émancipation des femmes. Vous dites dans vos conclusions aussi que il faut développer le foot féminin, et il faut aussi le développer peut-être d'une autre façon que le sport masculin. Et là, je parle pas forcément d'argent, mais du cliché de sport, quoi. C'est-à-dire il faut pas que le foot féminin soit le foot masculin, en fait. Il faut l'envisager d'une autre façon, dans la façon d'organiser des entraînements, etc.
Oui, ça, c'est l'approche qui est les entraîneurs, il faut pas qu'ils parlent aux petites filles comme ils parlent aux petits garçons. On est dans une approche éducative différente, et on voit que il faut que le football amateur, ou ces petites filles, c'est l'avenir du football suisse. C'est Christelle Luizier, là, qui est...
conseillère d'État vaudoise, oui. Voilà. Enfin, la présidente du gouvernement vaudois.
Ouais. Elle a une place au comité central de l'ASF. Elle insiste beaucoup sur le fait que le football amateur et le football professionnel sont deux faces d'une même réalité. Ça veut dire que plus on développera le football amateur et le football chez les enfants, plus le championnat suisse, qui s'appelle AXA Women Super League, la première division du championnat suisse, le niveau général s'améliorera.
Bon, l'Euro, c'est cet été, mois de juillet, hein, un petit peu partout en Suisse avec les matchs retransmis. Vous allez aller au stade ?
Oui, je vais probablement aller au stade.
C'est important, ça, hein, parce que dire, bon voilà, il faut que les gens suivent le foot féminin, il faut que vous donniez l'exemple, en fait.
Exactement, et pour l'instant, c'est l'Euro qui a vendu le plus de places.
L'Euro féminin, voilà.
Avec le plus de spectateurs. Il y a plus de 500 000 billets qui ont été vendus. Je crois qu'il y a une capacité totale de passer 700 000. Et l'objectif, c'était de battre le dernier Euro, l'affluence du dernier Euro qui s'était joué en Angleterre. Et pour l'instant, on y parvient. Mais bon, il reste des billets, donc il ne faut pas hésiter.
Histoire du football féminin en Suisse, édition livrée au Alfil, collection Les Routes de l'Histoire. C'est un livre où on apprend plein de choses. Grâce à vous, Dominique Prudent, merci.
Merci de m'avoir invité.